Mon cher Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard.
Bon, là, ça va pas bien pour M. Jason Kenney, le premier ministre albertain.
Il est carrément en danger, hein? Il est carrément en danger. Écoute, il y a 17 députés, c'est-à-dire le quart plus ou moins de son caucus, qui ont publié une lettre pour dénoncer les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement mardi pour tenter de freiner la pandémie. Écoute, dans leur lettre, les députés critiquent la décision du gouvernement de revenir à la phase 1. C'est les premières mesures qu'ils avaient mises en place. Puis là, écoute ça, nous ne soutenons pas les restrictions supplémentaires imposées aux Albertains hier. Et ils disent vouloir en faire entendre la voix de leurs électeurs frustrés par l'impact des restrictions sanitaires sur l'économie de la province et leurs emplois. Ils disent « Les électeurs veulent que nous défendions le gang-pain et les libertés des Albertais. »
Ça, c'est-tu, c'est-tu comme une espèce de courant, le courant un peu Trump à l'intérieur du gouvernement ou du caucus conservateur de l'Alberta, c'est-tu ça?
Clairement.
Ah oui.
L'époque, c'est un parti qui s'est divisé. À un moment donné, il y a eu le Wild Rose Party qui a failli prendre le pouvoir. Ensuite, ça a été un gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley. Mm. Et quand l'élection suivante a eu lieu, Jason Kenney, bien connu sur la scène nationale, ancien ministre de Stephen Harper,
ben oui,
est revenu faire l'unité entre le Wild Rose puis le Parti conservateur.
Et puis il était super populaire, hein?
Il était extrêmement populaire. On disait de lui qu'il allait probablement faire des gains très importants pour l'Alberta. Mais là, comprends-tu, le problème avec ce genre de lettre-là qui me jette par terre, là, on peut y revenir, ça, c'est la culture américaine, ça, nettement. Là. Les autorités albertaines, aujourd'hui, ont annoncé qu'hier, il y a eu 1351 nouveaux cas de COVID. Alors ça, comprends-tu, c'est une province qui a 2 millions d'habitants.
Hey.
2 millions et quart, 2,2.
Il y en a 1300, donc il y a à peu près le même chiffre que nous, quoique nous autres, on a monté aujourd'hui.
Oui, mais nous autres, on a 4 fois leur population.
Ben oui, c'est ça.
Alors, c'est très, très grave ceux qui vivent là-bas. Écoute, c'est tu sais, Jason Kenney dit, bon, les gens ont le droit de s'exprimer, parce que l'opposition lui a dit, monsieur le premier ministre, sacrez-les à la porte, que les gens comprennent que vous n'êtes pas en faveur de ça. Mais là, il y a un risque réel, puis j'ai parlé à des amis branchés là ce matin, il y a un risque réel d'un éclatement du parti. Parce que l'Alberta, elle va de, tu le sais, elle va de crise en crise. D'abord, pas capable de vendre son pétrole parce que les pipelines, c'est non, 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 à droite, à gauche, au nord, au sud,
oui,
de toutes les façons.
Oui.
Donc, il y a eu une perte d'emploi, il y a eu une chute des prix de l'énergie. Ça va pas bien en Alberta. On pensait que Kenney, avec son flair politique, certains disent de lui que c'est un des politiciens les plus rusés au pays. On pensait qu'il allait ramener tout ça ensemble puis dire, bon, on va travailler dans la même direction. Puis il y avait tout un plan, Bernard, dont un référendum sur la péréquation. Mais là, soudainement, là, il est complètement dans les câbles. Il essaye, il a joué au début le jeu du « Ah, nous autres, les masques, tu sais, un peu à l'américaine, hey, les masques, là, on est pas des taponneux, nous autres, là, comprends-tu, on met pas de masque, puis on ira bien au restaurant si on veut, puis liberté! » Ils sont très forts là-dessus, là-bas, là. « Liberté! » Alors, c'est ça. On est en train de vivre une crise politique comme il y en a ailleurs. « Liberté, Bernard!
Bon. » Mais là, c'est... Oui, mais tu me fais rire quand tu fais ça. Alors, bref, s'il fallait que le quart de ses députés décide de claquer à la porte, il pourrait, son gouvernement pourrait être en danger. Là. C'est un petit peu ça. Puis d'un sondage, moi j'ai vu les derniers.
Oui, oui.
D'un dernier
oui.
sondage, Luc, s'il y avait des élections, Kenney serait en danger. Là, l'ancienne première oui. ministre néo-démocrate, Notley, pourrait gagner les élections. Imagine-toi, c'est une méchante dégringolade pour Jason Kenney. Là.
C'est une méchante dégringolade. Et ce que tu dis, c'est-à-dire que s'il y avait un vote, évidemment, il pourrait se faire battre. Mais on n'en est pas là. Là où on en est, c'est ceux qui avaient créé le Wild Rose. Le Wild Rose, si on parle du début 2010-2011 à peu près, ça, c'était l'aile droite, biblique, religieuse, conservatrice sociale, tout ça. Eux autres, ils avaient créé leur propre parti, à la tête duquel il y avait une femme qui s'appelait Danielle Smith. Elle a passé un cheveu de gagner l'élection. Là, ils les ont réunis à nouveau, mais ce qu'on voit, c'est un éclatement du parti sous nos yeux. On se demande si dans les 48-72 prochaines heures, ces signataires-là vont pas signer une lettre pour dire on relance le Wild Rose ou quelque chose d'équivalent.
Oui. Bon, puis il y a toujours le courant séparatiste aussi en Alberta qui reste quand même présent. J'ai plusieurs auditeurs, Luc, qui me font remarquer que la population d'Alberta, 4,4 millions.
4,4? 4,4,
donc deux fois moins que nous. C'est notamment des auditeurs en Alberta.
Bon, Luc, je m'excuse d'avoir sous-estimé, mais c'est parce qu'il y a eu effectivement une croissance énorme de la population. Je me souvenais que Calgary est une ville d'à peu près 1,5, puis Edmonton est une ville de 300-400 000, puis après ça, il n'y a pas beaucoup de grandes agglomérations urbaines.
Ah non, c'est ça, c'est les deux principales.
C'est correct. Ben, alors, ils ont le même nombre que nous, puis de la moitié de la population.
Et voilà, très bien.
C'est quand même quelque chose. Puis en Ontario, ben, ils sont en train de vivre l'affaire des patients plus jeunes puis plus malades. Le docteur David Williams, qui est le docteur Arruda de l'Ontario, il dit les données sont plus élevées que lors de la première et de la seconde vague. Il dit c'est le pire qu'on a vu jusqu'à maintenant. Puis il dit c'est vraiment frappant. Beaucoup de patients sont dans la quarantaine, la cinquantaine, même dans la trentaine et parfois dans la vingtaine. Ce sont des patients qui se présentent très, très malades. Alors, je sais que vous avez, que tu as interviewé le docteur Marquis, qui a noté la même chose.
Oui, il fait le même constat.
Et ça, c'est quand même, wow.
Oui,
et moi, évidemment, mes yeux ont accroché sur une étude de l'Institut économique de Montréal qui a été publiée ce matin et qui nous dit que le Québec aurait pu épargner près de 6720 vies fauchées par la COVID-19 si le gouvernement n'avait pas décidé de transférer les patients des hôpitaux vers les CHSLD. Alors ça,
Oui, mais on sait pourquoi. Regarde, moi, je ne défends pas personne, mais on sait pourquoi on le fait. On voulait éviter le scénario à l'italienne, se retrouver avec des hôpitaux qui débordent. Puis alors, on a libéré des lits, puis effectivement...
On a libéré trop de lits, puis on n'a pas tenu compte du fait que là où on envoyait les gens, c'est peut-être que c'est là qu'ils allaient attraper le virus.
C'est ça.
J'ai toujours trouvé que s'il y avait quelque chose de négatif dans la gestion du gouvernement, c'était ça. Pourquoi je trouvais ça négatif? Parce qu'à cause des nouvelles qui venaient d'Europe puis d'Asie, on savait que ça frappait les gens âgés. Ouais. Il aurait fallu les amener quelque part où ils auraient été mieux protégés. Mais enfin, on connaît l'histoire. Ouais. C'est une des grandes tragédies de l'histoire du Québec.
Oui. Puis évidemment, on ne savait pas à ce moment-là à quel point le maudit virus pouvait être asymptomatique. On a réalisé...
On ne savait même pas comment il se transmettait à cette époque-là. On le sait maintenant parce que d'ailleurs, le Center for Disease Control a publié une note aujourd'hui aux États-Unis. C'est la grande référence, là. Ils ont publié une note pour dire que attraper le virus sur une surface inanimée, là, ce qu'on croyait depuis le début, là, puis qu'on nettoyait notre épicerie, puis tout ça, là, c'est inutile. Qu'il n'y a pratiquement pas, ils n'ont pas dit zéro, mais pratiquement pas d'infections qui sont causées par justement quelque chose qui serait resté sur un comptoir ou un objet inanimé.
C'est un bon exemple, celui qu'au début, on craignait qu'on l'attraperait sur des surfaces inertes et on tenait absolument pas en compte l'effet aérosol. Et plus on avançait dans la pandémie, plus on s'est rendu compte que finalement, l'effet aérosol était bien réel, alors que l'effet transmission sur des surfaces inertes ne l'était pas. Et puis là, avec le sacré variant, on sait que l'effet aérosol est probablement encore beaucoup plus important, là.
Beaucoup, beaucoup plus important, au point, Bernard, où on peut quasiment soutenir que ça se transmet presque uniquement par l'aérosol.
Donc, les petites gouttelettes
microscopiques. C'est ça qui est vraiment la cause de ça. Mais avant, j'avais d'autres choses à te raconter sur la pandémie, entre autres qu'à Québec, la santé publique a décidé qu'il fermait... un garage, là, un concessionnaire automobile, à cause de 12 nouveaux cas de COVID-19 qu'ils ont trouvés sur les lieux. Je le souligne simplement parce que je suis heureux de voir que la santé publique, après la gym à la con de la semaine passée, passe à l'action. Là. Il faut arrêter ça, ces folies-là, là, je veux dire. Bon, est-ce que... Moi, je suis pas en train de dire que le propriétaire du concessionnaire est fautif ou quoi, mais la santé publique fait son travail, puis ça, je tiens à le souligner. Terminer sur... Pour nos auditeurs qui connaissent la France, qui connaissent ou qui sont eux-mêmes français, parce que je sais qu'on en a beaucoup, notre ami le président Macron s'apprête à annoncer qui va fermer l'École nationale d'administration, l'ENA.
Hein? Il va la fermer?
Il va la remplacer par une nouvelle école plus ouverte à la diversité. Ah. Tu comprends? Cette école-là, ça a été créé par le général de Gaulle en 1945, et l'idée, c'était de former les fonctionnaires français. Mais là, on se retrouve avec quoi aujourd'hui? 4 des 6 derniers présidents étaient des produits de l'ENA.
Ce qu'on appelle les énarques, hein, c'est
ça? Les fameux énarques. Ils ont créé une espèce d'élite de fonctionnaires d'État qui pensent tous pareil, qui ont tous la même éducation et qui ne font que perpétuer l'existence d'un État, ma foi, qui est gigantesque. Tu sais, l'État français, c'est énorme, beaucoup plus gros que ce qu'on a ici, toute proportion gardée. Alors, il a décidé qu'on met la clé dans la porte de l'ENA. Et ça, évidemment, c'est un gros geste parce que il l'avait promis ça, lors de la révolte des Gilets jaunes. Moi, j'étais allé à Paris au moment où les Gilets jaunes étaient à leur pire. Hein, et je me souviens d'avoir jasé avec 2 d'entre eux. Puis ils revenaient toujours avec ça. Ils revenaient toujours avec l'idée « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est toujours les mêmes qui sont toujours là depuis 75 ans. Ils viennent tous de la même école. Ils pensent tous pareil. Ce sont des menteurs des ci, des ça, des ça. Mm-hmm. » Alors, c'est une France qui essaie d'évoluer parce que la France des grandes écoles, c'est encore une réalité. Comme tu sais, Bernard, ça a été créé par Napoléon, là, la Polytechnique, puis Saint-Cyr, puis ces grandes écoles-là. Et c'était destiné à former une élite, parce qu'à cette époque, on n'avait pas honte de dire « nous, on travaille pour l'élite ». Alors, je tenais à le souligner, parce que moi, je pense que la fin des énarques, c'est un moment historique en France.
Est-ce que tu crois que c'est un développement heureux ou malheureux?
Je pense que c'est un développement très heureux.
Ah oui?
Très heureux.
Faut briser le moule.
Ouais. Parce que les grandes écoles comme telles, moi, j'aimerais qu'elles demeurent, la Polytechnique, Normale Sup, ces écoles-là, parce que ce sont des écoles qui rivalisent avec les meilleures au monde. OK? Ce sont des écoles d'élite. On admet qu'il y a une élite, mais ce sont les écoles françaises qui se mesurent avec les grands, avec les Oxford, les Cambridge, ces universités-là. Je pense qu'il devrait avoir moyen de les garder ouvertes, de les rendre plus faciles d'accès pour toutes les classes sociales. Mm-hmm. Mais quant à l'ENA, imagine-toi que tous les fonctionnaires viennent tous de la même école au Québec, là. Puis ils disent toutes la même affaire, toutes en même temps. Je veux dire, ça donne pas un gouvernement ben dynamique. En fait, c'est comme une perpétuation de...
Ça fait une bureaucratie figée. Hein?
Complètement figée, se renouvelle d'un à l'autre. Alors, tu sais, il n'y a plus de place au débat, quasiment. Ils sont tellement envahissants.
Ouais.
Et oublie pas que Macron lui-même est un énarque.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on en reparlera de la politique française, parce que, je vais te dire... Madame Le Pen la menace.
Elle est très, très menaçante, puis c'est tellement mal géré, la vaccination la pandémie en France, qu'elle monte dans les sondages, et le pire pourrait se produire en 2022. C'est en 2022, la prochaine élection présidentielle.
On aura l'occasion d'en reparler, Luc. Merci, on se reparle... pour nous, c'est fini. Hein, c'est fini pour aujourd'hui,
demain,
mon Luc.
Bernard.
À demain, mon Luc, à demain.
OK,
on s'en va à la pause. Au retour, on va parler avec une jeune femme. Elle s'appelle Marielle, et elle et son jeune frère ont sauvé leur mère, qui était au bord de la noyade. Alors, c'est une belle histoire. Ça nous amène ailleurs, puis ça met l'accent sur le côté positif, n'est-ce pas, de la nature humaine dans un instant.